convertissez-vous. Convertissez-vous, c'est le mot d'ordre de Jean-Baptiste que nous avons l'habitude d'évoquer dans ce temps de l'Avent. Et cet appel de Jean-Baptiste, convertissez-vous, suivant les Bibles, suivant les versions, c'est traduit parfois différemment. On entend parfois repentez-vous, parfois, ou jadis, faites pénitence. Et dans les Bibles contemporaines, j'ai même lu récemment Jean-Baptiste qui disait « changez de comportement ». Alors j'ai voulu prendre au pied de la lettre ce commandement de Jean-Baptiste et dire « convertissez-vous ». Et je rajoute « au christianisme ». Pourquoi ? Eh bien parce que c'est la meilleure religion du monde. Voilà. Alors vous me direz, c'est une utilisation sans doute un peu malhonnête de l'injonction de Jean-Baptiste. Oui, je le conçois, Jean-Baptiste n'avait certainement pas cette idée-là en tête. D'abord, il ne pouvait pas le dire, puisque le christianisme n'existait pas du temps de Jean-Baptiste. Donc, je reconnais que c'est un peu tiré par les cheveux, mais en fait, je crois que son appel n'est pas étranger à ce que je veux vous dire, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Mais en fait, quand je dis « convertissez-vous au christianisme », je commence d'abord par me faire du mal, enfin par me faire violence, pour tout vous dire. Parce que ce n'est pas ma nature du tout que de dire aux gens « convertissez-vous au christianisme ou à quoi que ce soit ». Jamais je n'ai cherché à convertir qui que ce soit. Et je suis même d'une discrétion exemplaire à cet égard. Il y a même des amis que je fréquente, qui me connaissent, qui m'aiment bien, et à qui je n'ai jamais parlé de Dieu, ni de rien. Je leur fiche une paix totale. Alors vous me direz, c'est un peu l'état d'esprit, en tout cas de notre Église ici, de la nôtre et de d'autres églises chrétiennes, où on dit « pas de prosélytisme ». Alors oui, c'est vrai, je pense que peut-être que nous ne faisons pas de prosélytisme par un grand respect de l'autre, tout simplement. Quand je croise quelqu'un, je crois qu'il est grand, adulte et responsable, capable de savoir lui-même en quoi il croit, et je n'ai pas besoin d'aller le harceler pour essayer de lui faire changer d'idée. Je n'ai pas de leçon à faire à qui que ce soit. Et quand je parle à quelqu'un, si je suis avec un ami, un frère ou une rencontre, je le prends comme il est, et aimer son prochain, c'est l'accueillir comme il est, sans forcément se dire qu'il faudrait que l'autre soit autre chose que ce qu'il est, et sous-entendu qu'il soit comme moi je voudrais qu'il soit. Donc oui, pas de prosélytisme, et c'est effectivement non seulement, j'allais dire, une confession de foi, et aussi mon attitude à moi en général, mais parfois, je me demande quand même, en me disant, mais est-ce que par hasard, c'est pas dommage? Est-ce que c'est pas un tort d'être finalement si discret? Et sans vouloir être pénible ou violent, le christianisme, ma foi, pour moi, c'est un trésor. C'est un trésor qui me fait vivre. Cette foi chrétienne, c'est mon espérance. C'est ma joie, c'est mon engagement. J'ai construit ma vie dessus, toute ma vie, même ma famille. Et je lui dois non seulement ce que je fais là aujourd'hui, ce que je fais du soir au matin, du matin au soir, et je lui dois mon équilibre personnel, et peut-être même que je lui dois la vie. Et donc j'aime très profondément cette foi chrétienne, qui par ailleurs, non seulement moi, me fait vivre, et qui par ailleurs, je la trouve formidable. Je trouve que c'est une foi ouverte, audacieuse, engageante, libérante ou libératrice. Et comment je pourrais ne pas partager avec ceux que je rencontre ou que j'aime quelque chose qui pour moi est si précieux, si vous voulez. Donc je voudrais dire, comme Jean-Baptiste, convertissez-vous, parce qu'il y a là un trésor, il y a là une merveille absolue. Et en fait, je ne sais pas faire. Je ne le fais pas. Voilà. Et je vous dis peut-être que c'est un excès de discrétion, ou peut-être aussi le problème, si je peux dire, c'est que ma foi, et je pense que c'est vrai pour beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose de tellement, tellement intime que j'ai du mal à en parler. Alors, je le fais là professionnellement parce que c'est mon métier, mais en privé, je ne sais pas faire. Voilà. Bon, donc, ça me touche parce que À la fois, je ne le fais pas, je comprends pourquoi, je peux me justifier, et en même temps, je me dis que c'est peut-être dommage parce que je crois que le message du Christ est universel et peut s'adresser à tout le monde. Alors d'ailleurs, est-ce que ce message est vraiment universel ? Eh bien, c'est vrai que quand on dit le symbole des apôtres, vous savez, le credo que partagent tous les chrétiens, on dit « je crois la Sainte Église universelle ». Ce qu'on peut dire aussi catholique, puisque catholique veut dire universel. Je crois la Sainte Église universelle. Ça veut dire, je crois que le message du Christ est pour tout l'univers. Est-ce que c'est vrai? Alors, il y a là des grands débats. Certains disent, en fait, non, pas forcément. Mais moi, je crois que la Sainte Église est valable pour tout l'univers. Et le débat, vous disais-je, c'est qu'un certain nombre de gens, en particulier, disent, mais non, en fait... est-ce qu'il n'y a pas un problème, par exemple, à vouloir évangéliser certains peuples primitifs ? Mais d'habitude, aujourd'hui, la mode, c'est plutôt de dire non. Il faut laisser à ces peuples primitifs leurs croyances qui sont folkloriques et parfois même sympathiques, colorées et agréables à voir et intéressantes, sans chercher à les rendre chrétiens, parce qu'alors on les couperait de leurs racines. C'est un peu la mode. Mais en fait, je ne crois pas. Je pense que c'est très bien. Si tout le monde pouvait être chrétien, ce serait beaucoup mieux. Donc oui, d'accord pour le folklore. Si vous voulez garder le folklore, garder les costumes colorés, les danses, les machins, les chants, tout ce que vous voulez. Mais je crois que l'Évangile est bon pour tout le monde, pour la terre entière et pour toutes les cultures. D'ailleurs, vous savez, par exemple, quand on dit on dit, mais nous, on est chrétiens par nature. On dit parfois cela, la France est chrétienne depuis toujours. Réponse, non, la France n'est pas chrétienne depuis toujours. Elle ne l'est que depuis le 2 ou 3e siècle. Avant, la religion, je dirais, native de la France, ou de nos ancêtres les Gaulois, c'était la religion celte. Et là, c'était quand même pas piqué des vers, hein. Les gars, ils étaient au pied des druides avec des serpes, là, au pied des chênes avec des serpes, avec des druides en robe blanche, et en train, non, bon, ils coupaient du gui, on s'en fiche un peu, mais ils faisaient des sacrifices humains, c'est-à-dire qu'ils tuaient des petits garçons, qu'ils ensanglantaient au pied des chênes, et ils faisaient des prières à je ne sais pas quelle divinité du ciel. Bon, faut voir quand même. Alors heureusement, Saint-Martin, c'est ce qu'on dit, Saint-Martin arrive en France, et en Gaule, à ce moment-là, il dit « mais arrêtez !» Ça va pas du tout votre truc, j'aurais Dieu ne peut pas se complaire au sacrifice humain, c'est pas possible votre histoire. Et même d'ailleurs les sacrifices, quels qu'ils soient, je crois que Dieu n'en a rien à faire. Il dit tout ce que Dieu veut, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est la miséricorde. Et puis par ailleurs, arrêtez avec vos histoires de ciel qui vous tombent sur la tête. Là, j'ai lu ça dans Astérix, hein, je sais pas si c'est vrai, mais c'est de la superstition ces histoires-là. Et donc je crois que ce jour-là, la France, la Gaule, a renoncé, je dirais, à une culture ancestrale. Eh bien, tant mieux, elle a fait un grand pas en avant. Elle a fait un grand pas en avant. Parce qu'en effet, le christianisme, que nous professons avec tant de joie, en disant « c'est notre culture, la France est chrétienne », non, non, pas du tout. Le christianisme n'est pas une culture indigène. Le christianisme, c'est une religion moyenne-orientale. Et d'ailleurs, pour être pasteur, on me force à apprendre l'hébreu, pas les runes celtiques. Hein. On force à apprendre l'hébreu. L'hébreu, c'est une culture qui n'est pas la nôtre. C'est une langue sémitique qui est à des milliers de kilomètres d'ici. Et cette culture qui n'est pas la nôtre, elle est devenue la nôtre. Et je m'en réjouis. Et je dirais que je remercie nos ancêtres les Gaulois, ceux en tout cas qui ont eu le courage, un jour ou l'autre, d'abandonner la croyance de leur père. Ceux qui ont eu le courage de dire « mes parents, mes grands-parents sacrifiaient des enfants au pied des chênes, moi je ne le ferai pas. Et je considère qu'il faut être chrétien. » Ces gens-là ont eu un courage, je dirais, de choisir eux-mêmes leur religion, de choisir eux-mêmes leur foi et de dire « je choisis d'être chrétien. » Donc voilà, et en même temps, à l'inverse, j'ai entendu récemment une conférence de quelqu'un qui n'aimait pas trop les protestants, ça s'entendait, parce qu'il nous racontait l'histoire des îles Saint-Kilda. C'est des îles au large de l'Écosse, et ce conférencier, qui par ailleurs est un de mes amis, donc je ne lui en veux pas, nous racontait que sur cette île, Il y avait, c'est une île, dit-il, où il y a les plus beaux paysages du monde. Il y a des voyages organisés, vous pouvez y aller. Les plus beaux paysages du monde, c'est splendide, merveilleux, incroyable. Et il y avait sur cette île une population un peu primitive, jusqu'au 1920-1940, qui avait un culte celtique qui était resté, un culte d'adoration de la terre, des forces telluriques, et donc ils étaient attachés à leur terre, au cycle des saisons et des choses comme ça. Il est arrivé, m'a dit cet ami, un prédicateur calviniste, qui leur a dit « Mais attendez, tout ça c'est des superstitions, c'est des horreurs, croyez dans le Dieu de Jésus-Christ ». Et donc ce prédicateur calviniste, un peu intégriste, leur a fait abandonner leur culte celtique. Du coup, ces braves gens ont perdu leur lien à leur terre, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils se sont barrés. Ils sont partis s'installer ailleurs, et l'île est devenue déserte. Et mon conférencier disait, vous voyez, cette île si merveilleuse est devenue déserte, ces gens ont quitté leur pays, et ils ont abandonné cette île à cause de la prédication d'un pasteur calviniste. Alors il disait en fait que le pasteur avait eu tort, qu'on aurait dû laisser ces gens avec leur culture primitive, ils seraient restés sur leur terre à adorer les menhirs, les arbres et les druides et tout ça. Et est-ce que ce pasteur a eu tort? Eh bien non, en fait, je ne crois pas. Parce qu'il faut bien le dire, cette île est très agréable si vous y allez entre le 15 juin et le 15 juillet, après il y a des moustiques, avant il y a du brouillard, et en fait cette île est totalement invivable. Je dirais, le climat est dur, il fait froid, il y a du brouillard, il y a de la pluie. Ces gens vivaient dans la pauvreté la plus extrême, dans la misère, dans la famine, dans les maladies, les malformations dues à la consanguinité. Enfin, c'était épouvantable. Et ces gens ne restaient là qu'à cause de leurs croyances primitives. Et quand ils ont reçu l'Évangile, ben en fait, ils ont été libérés de cette espèce d'obligation qu'ils se donnaient à eux-mêmes de rester fidèles à une tradition qui, en fait, était tout simplement effroyable. Et donc, ils sont partis ailleurs, et tant mieux. Et d'ailleurs, depuis, si vous voulez y habiter, vous pouvez, il y a des maisons à vendre. Mais personne ne veut habiter là-bas, évidemment, personne. Et donc, tant pis pour le folklore, si vous voulez. Mais je pense que c'est plutôt bien, finalement. Donc, je conteste mon conférencier. Je crois que le christianisme est bon pour tout le monde, et tant pis pour les paysages et les danses folkloriques. Et donc je dirais, comme Paul dans la lettre aux Romains, n'ayons pas honte de l'Évangile. Et moi, suis-je trop frileux ou discret à parler de l'Évangile? Peut-être, mais je vous laisse en question, je ne sais pas. Ma prédication ne consiste pas à donner toujours des réponses, mais à soumettre des questions. Je ne sais pas répondre à cette question. Mais bon, cela dit, mon sujet n'était pas d'inciter au prosélytisme. Je reprends le mot d'ordre de Jean-Baptiste. Convertissez-vous. Et je me dis, mais finalement, qu'est-ce qui empêche quelqu'un qui finalement aime bien l'Évangile et se trouve en accord avec ça, qu'est-ce qui lui empêche de devenir chrétien, dans le fond? Alors, ce que l'on a vu dans l'histoire que je vous ai évoquée, de cet humoriste-là qui s'est converti, ou à moitié pas converti, on ne sait pas, c'est le rapport à la famille, le rapport aux parents, le rapport à la tradition. Et c'est vrai que souvent, chaque fois que je fais un acte pastoral, comme on dit, un service funèbre, mariage ou autre, j'ai des gens qui viennent me dire, « Oh, c'était formidable et j'aime tellement ce que vous faites. Hein, si j'avais le choix, je fréquenterais votre temple. » Je dis, « Mais si vous aviez le choix... » Mais oui, vous avez le choix. Justement, vous avez le choix. Vous avez le choix. Pourquoi cette personne me dit « si j'avais le choix » Il y a tant de domaines où on n'a pas le choix. Je dirais sur le fait du pays où on est né, de son statut social, de son physique, plaisant ou pas plaisant, de sa taille, de sa grandeur, de sa santé, même de son travail. Il y a tant de choses sur lesquelles on n'a pas le choix. Tant de choses que nous subissons sans cesse dans notre vie, et jour après jour, nous n'avons pas le choix, nous subissons ce qui nous arrive. Et tant de fois, il y a des gens qui choisissent pour nous, sans nous consulter, on nous impose des choses. Et s'il y a un domaine, un, dans lequel vous avez totalement le choix, c'est celui de votre foi. Vous avez le choix. Et s'il y a un domaine où vous pouvez dire « je », Et vous avez de la chance d'être en plus dans un pays où la laïcité vous autorise et vous encourage même à dire « Mais écoutez, il y a la liberté totale de culte. S'il y a un domaine où vous pouvez dire « je », c'est dans celui où vous pouvez affirmer ce en quoi vous croyez et affirmer ce que vous êtes. » Quant à vos familles, vos proches, vos amis, s'ils vous aiment, ils diront d'accord. Et si jamais ils vous rejettent, c'est que simplement ils ne vous aimaient pas pour ce que vous êtes. Alors, j'avais prêché la dernière fois sur la prière. Et j'avais dit qu'une des causes de la joie de la prière, c'est que c'est justement un moment où on peut devenir sujet de sa vie. Et on reparle même de ce qui nous est arrivé au « je », c'est-à-dire qu'on reprend la main sur son existence et où on n'est plus l'objet d'événements qui nous arrivent, mais on devient le sujet de l'interprétation de sa propre existence. Et pour aller jusqu'au bout de cela, je dirais oui, et on peut même affirmer ce que l'on croit, et on peut se libérer des pressions du passé, de l'environnement. Il ne s'agit pas de renier sa famille ou la foi de ses parents, mais on peut la réinterpréter à sa manière et on peut se l'approprier soi-même. Et c'est une, vous savez, c'est vraiment, je crois que c'est une très grande joie quand on se libère de ce qu'on vous imposait. Et dans le domaine de la foi, on peut se libérer de ce que tout le monde veut vous imposer. Et quand on se libère de ce qu'on vous impose et qu'on accepte de devenir soi-même, il y a là quelque chose qui est de l'ordre de la nouvelle naissance. Parce que enfin, je peux dire « je ». Et cette fois, c'est la mienne. C'est une nouvelle naissance. Et ça n'est pas pour rien que Jean-Baptiste, quand il disait « convertissez-vous », il plongeait les gens dans l'eau et il ressortait comme s'il naissait à une vie nouvelle. Il y a là quelque chose qui me semble assez juste. Enfin, je peux être sujet de ma vie. Alors certes, bon, je sais bien, on peut toujours être l'exception de quelqu'un de remarquable et de bien dans une religion plutôt moyenne, bon, en disant « ma religion elle est terrible, enfin moi au moins je suis bien, on est quelques-uns, mais bon, on peut ». De même qu'il y a aussi des gens effroyables dans des religions très bien, il y a un peu de tout, mais quelle joie quand on peut se sentir en accord avec là où l'on est, et qu'on est en cohérence, et donc j'incite effectivement à dire, écoutez, ayons le courage d'aller là où on se sent le mieux. Et alors, en quoi, voulais-je vous dire, en quoi le christianisme serait-il meilleur que toute autre religion? Eh bien oui, je crois que le christianisme est la meilleure des religions. D'abord, je m'élèverai contre l'idée parfois professée, un peu générale, de vérité relative. C'est un peu la mode, on fait beaucoup d'interreligieux, et même dans notre paroisse, on en fait beaucoup de dialogues avec les autres religions. Et une mode, c'est de dire, oh, vous savez, en fait, toutes les religions se valent et sont plus ou moins équivalentes ou plus ou moins valables. Et même parfois, on donne cette image sympathique en disant, c'est comme, vous savez, une montagne qui s'élèverait jusqu'au sommet qui serait Dieu, et les religions seraient différents chemins qui mèneraient finalement au même endroit et au même sommet qui est Dieu, seul les chemins divergent. Eh bien non, je ne crois pas du tout cette image juste. D'abord parce que même si le sommet est le même, je ne pense pas qu'on puisse dire que le chemin soit sans importance. Et si, pour prétendre aller au sommet, votre chemin passe, je dirais, par le fait d'imposer à l'autre de la violence, de la culpabilité ou du mépris, eh bien ce chemin est mauvais. Donc à la limite, j'aime mieux que vous restiez en bas à ne pas emmerder le monde plutôt que de prendre un chemin qui mène à Dieu et qui fasse du tort aux autres. Donc non, le chemin compte, d'abord. Et en d'autre part, je crois que toute vérité n'est pas relative. C'est un peu facile de dire « tout est vrai en même temps ». Ça n'est pas vrai. Tout n'est pas vrai en même temps. Et il y a beaucoup de choses dans lesquelles, si une chose est vraie, l'autre est tort, est fausse. Si certains domaines, si une religion a raison, eh bien celle qui dit le contraire a tort. On ne peut pas sortir de là. Je vous donnerai un seul exemple. Les religions de l'Inde professent la réincarnation. Le christianisme dit non. Il n'y a pas de réincarnation, vous avez une vie et elle est sauvée pour l'éternité. On ne peut pas avoir raison les deux à la fois. Où il y a réincarnation, l'Inde a raison, les chrétiens ont tort. Où il n'y a pas de réincarnation, l'Inde a tort et les chrétiens ont raison. Tout n'est pas égal. Et d'autant plus que ça a des conséquences incalculables, cette histoire. La réincarnation, ou pas, entraîne une certaine conception du corps, une certaine conception du sens de sa vie, de la relation à l'autre, de la situation dans laquelle on est dans ce monde, de la crainte d'un jugement, de la rétribution, enfin, de l'organisation même de la société. Et donc tout cela a des conséquences incalculables à partir d'un axiome qui est ou vrai ou faux. Donc non, tout n'est pas vrai en même temps, il faut choisir. Et même, peut-être plus important encore, je dirais, le christianisme, enfin ce que je crois lire de l'Évangile, prêche un Dieu d'amour et de pardon, avant tout. Et il y a, je ne veux pas citer de religion, parce qu'il y a des intégristes un peu partout, mais il y a des intégristes un peu dans toutes les religions, qui eux, au contraire, vont prêcher un Dieu de violence, de haine et de guerre. Tout n'est pas égal. Il faut choisir ou Dieu est un Dieu d'amour et de pardon ou c'est un Dieu de jugement et de haine et ou de guerre. Il faut choisir. Tout n'est pas égal. Donc non, je ne suis pas d'accord. Tout n'est pas égal. Et personnellement, eh bien, je suis pour la prédication d'un Dieu d'amour, de pardon, de tolérance et de bonté. Voilà. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça. Je vais vous dire pourquoi, en fait, j'aime particulièrement le christianisme plus que toute autre religion possible. Et ça, eh bien, j'ai découvert en regardant les personnes qui se convertissent au christianisme, pourquoi certaines personnes se convertissent au christianisme en venant d'une autre religion. Alors d'abord, attention, oui, je veux dire, il y a des gens aussi qui se convertissent dans l'autre sens, hein, je ne veux pas le nier, et en particulier, j'ai un neveu très proche, enfin le fils de mon cousin Germain, qui est chrétien alors de toute génération, qui s'est converti au judaïsme, qui aujourd'hui est plus juif qu'un juif. Il a changé son prénom, il s'appelle plus Armand mais Amram. Et bienvenue, welcome mon petit cousin, et on l'aime beaucoup. Et personne ne lui a dit « Comment tu renies la foi de tes ancêtres, tu n'es plus dans la famille ?» Il est bienvenu et on l'aime et ça ne pose aucun problème. Il est très heureux comme ça, il a ses raisons, il n'y a absolument aucun problème, ce qui prouve qu'on peut très bien choisir sa religion sans que ça fasse d'histoire. Moi, j'aime mon neveu, je l'aime comme il est, il fait ce choix, je l'aime comme ça, il n'y a aucun problème. Donc voilà, mais je reprends, quand c'est dans l'autre sens. Récemment, je vous ai parlé, donc cet humoriste qui se convertit à moitié, en partie, on ne sait pas. Ce qu'il raconte, c'est que ce qu'il a découvert, c'est en entrant dans une église, tout à coup, un sentiment de douceur, de bonté, de tranquillité, de calme et de générosité. Alors il l'a personnalisé dans la figure et l'image de la Vierge Marie, auquel il est maintenant très attaché, et tant mieux, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est ça qui l'a touché. Et j'ai entendu aussi, j'ai lu beaucoup de récits de conversions, de personnes qui viennent cette fois de l'islam et qui deviennent chrétiens. Et pratiquement à chaque fois, c'est la même chose. Ce que disent ces gens, c'est que ce qui les a bouleversés, c'est le message de grâce, de douceur, de tendresse et de bonté. Et ça, je crois que c'est peut-être ça la chose la plus belle de la religion de Jésus et qui ne se trouve pas dans toutes les autres formes de religion. Hors du christianisme, et parfois aussi dedans, parce qu'il y a aussi des chrétiens qui sont un peu zinzins, je ne dirais pas le contraire, mais bon. Et qu'en tout cas, dans vraiment un christianisme profondément évangélique, il y a justement cette notion de douceur, de pardon, de grâce, de bonté et de générosité. Et qu'il y a toujours le risque, à l'inverse, d'avoir des religions qui sont des religions dures, où, sans forcément être violent ou méchant, mais où on présente un Dieu dur, des religions où il y a des contraintes, des religions où il y a des obligations, où il y a des exigences de pratique, des interdictions, où il y a une peur du jugement, une peur de l'enfer, et tout ça est dur, si vous voulez. C'est une religion qu'il faut s'imposer, qu'on tient à la force du poignet, avec toujours cette menace du jugement, de rendre des comptes, et c'est un Dieu d'exigence, et quand on ne fait pas ce qu'il faut, on fait le péché. Enfin, tout ça, c'est une religion dure. Et tout à coup, on arrive dans une vraie et authentique religion de la grâce, du pardon, de l'accueil inconditionnel et de la paix. Et ça, c'est, je crois, merveilleux, parce que quand on est dans une religion dure, finalement, ça génère une forme de violence, soit physique, soit morale. Ça génère du jugement des autres qui ne le font pas, ou ça génère du mépris à l'égard de ceux qui ne s'imposent pas ce genre de choses. Et donc, oui, je vous disais, ce qui est bouleversant dans le christianisme, cette religion de douceur et de tendresse, et je milite pour qu'elle le reste. Ce que je vous dis, même le christianisme peut toujours redevenir une religion du jugement, des observances, des commandements, des lois, des interdictions, des machins. Mais gardons au christianisme cette idée d'une religion de tendresse, d'amour inconditionnel, de pardon et de paix, et une religion qui soit celle de la tranquillité et de la simplicité. On en a tellement besoin, vous savez. Je ne sais pas vous, peut-être que votre vie est un paradis semé de pétales de roses et que ça vous fait beaucoup de bien d'avoir une religion qui vous serre un peu les vis, hein, mais pour moi, c'est vraiment le contraire, je vais vous dire. Et donc, j'ai besoin que ma religion soit une zone de confort, de ressourcement, de tendresse. Sinon, je ne vis pas, je dirais. Donc, j'en ai besoin. Donc, oui, j'aime cette religion de la tendresse. Et d'ailleurs, tenez, je passe mon temps à dire « je ne crois pas au miracle », j'en ai un pour vous spécialement. Je ne sais pas si Dieu a fait exprès, mais c'est assez marrant. Christ, ça se dit Christos en grec. Mais Christos en grec, si on écrit non pas avec un « i », mais avec un « eta », ce qui se prononce pareil, donc Christos en grec, tous ceux qui sont hellénistes ici le savent, et vous me le dites avant moi, ça veut dire « doux ». Et donc Christos, le Christ, pour quiconque est un peu helléniste, il entend « doux ». Jésus, Christos, Jésus le doux. Venez à moi, dit Jésus, merveilleux passage, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, car je suis doux et humble de cœur. Quelle belle profession de foi. Jésus qui dit ça, c'est pas venez à moi, je vous ferai de vous des soldats pour lutter contre le mal. Venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. Eh bien moi, je suis très fier de mon Seigneur Jésus-Christ. Pour ça. Alors ça nous rapproche du point de départ. Parce que Jean-Baptiste disait « repentez-vous, convertissez-vous, repentez-vous, je ne sais pas ». Et je vous ai dit, certaines traductions ont voulu traduire ça en disant « changez d'attitude ». Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas changer d'attitude. En fait, littéralement, il y a écrit « faites demi-tour ». D'où convertissez-vous, puisque au ski, la conversion, c'est de changer de sens, hein, c'est pas de changer de religion, mais c'est faites demi-tour, revenez à Dieu. Et comment Jean-Baptiste propose de revenir à Dieu, ça c'est formidable. Il ne dit pas revenez à Dieu, faites le bien plutôt que le mal, appliquez-vous des règles encore plus strictes. Il dit non, pour revenir à Dieu, il n'y a qu'une chose à faire, acceptez le pardon. Incroyable, acceptez le pardon. Faites-vous baptiser. Et le baptême de Jean-Baptiste, qui n'était pas le baptême que nous donnerons à la petite Anna tout à l'heure, c'était un baptême par immersion d'adulte, c'était un baptême de pardon des péchés. La personne était plongée dans l'eau et elle ressortait comme naissant de nouveau à une vie nouvelle, comme lavée et purifiée. Et donc, revenez à Dieu, dit Jean-Baptiste, et pour ça, plongez-vous dans un bain de grâce. Oh, moi, ça me plaît beaucoup, ça. Plongez-vous dans un bain de grâce, de bonté, de pardon. Sentez-vous régénéré, comme nouveau-né. Et quand il dit « acceptez le pardon, confessez vos péchés, etc. », ce n'est pas cette histoire de péché, c'est justement « libérez-vous du sentiment de culpabilité. Libérez-vous du sentiment d'être coupable. Ne restez pas centré sur vos devoirs, sur vos fautes, mais revenez simplement à Dieu. Revenez à Dieu. » Retournez à Dieu, convertissez-vous vers Dieu, vers ce Dieu qui pardonne abondamment. C'est tout, vers ce Dieu qui pardonne. Revenez à Dieu, acceptez de vivre de douceur, de tendresse, et vous naîtrez à une vie nouvelle. Ça changera tout pour vous. Et Jean-Baptiste, par ailleurs, là je me prêche encore à moi-même, j'ai encore une question à vous poser. Jean-Baptiste invite à marquer cela par un geste, a marqué cette démarche spirituelle de revenir vers ce Dieu de grâce par un geste concret. Faites-vous baptiser. Peut-être qu'il a raison. Revenez à Dieu et marquez-le par un geste concret. Convertissez-vous. Faites-vous baptiser. professez votre choix, marquez-le concrètement. Et de ce côté-là, c'est peut-être un appel contre ceux qu'on appelait du temps de la Réforme les Nicodémites. Vous savez, ceux qui se convertissaient mais qui restaient un peu cachés dans l'ombre et qui vont voir Jésus la nuit parce qu'ils veulent pas trop qu'on le voit, enfin discrètement, qu'on ça ne se sache pas. Et Jean-Baptiste dit non, vous avez une idée, convertissez-vous et vous le marquez, vous plongez dans l'eau, vous ressortez, marquez les choses concrètement par un geste concret. Et effectivement, c'est intéressant, faites votre choix et assumez-le. Parce qu'on est là, en fait, sur un point très important, c'est que justement, Jésus, à la suite de Jean-Baptiste, invite à sortir, justement, de l'idée que la religion serait une foi héritée. Sortir de l'idée d'une religion génétique. Je suis chrétien parce que mes parents étaient chrétiens. Je suis protestant parce que ma grand-mère l'était, catholique parce que mon grand-père l'était, juif parce que mon arrière-grand-mère l'était, ou je ne sais quoi. Mais faites de la religion votre choix personnel. Et d'ailleurs, quand on baptise un enfant, je le redirai tout à l'heure, je dis clairement, vous savez, on baptise le bébé, mais ce n'est pas par le baptême que l'on devient chrétien. On devient chrétien le jour où on professe sa foi. Être baptisé, on dit bienvenue dans l'Église parce que vos parents le sont, vous faites partie de la famille. Mais on est chrétien le jour où on dit oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. C'est la confession de foi où justement quelqu'un peut dire je. C'est à ce moment-là qu'on devient chrétien. Mais vous disais, je me pose là moi-même une question quand je dis aux gens faites-vous baptiser, professez votre foi. En même temps, ici à l'Étoile, je ne l'ai jamais demandé à personne. Je n'ai jamais dit à quelqu'un qui vient, vous devriez quand même vous faire baptiser parce que c'est depuis le temps que vous venez. Jamais. On ne demande même pas. Vous me direz, vous qui êtes catholique, vous direz, c'est peut-être un peu d'une liberté excessive. On ne demande même pas, pour faire partie de l'Église protestante unie de l'Étoile, d'avoir été baptisé. On dit, vous le voulez, vous y êtes. Et je ne demande aucune question à personne qui veut venir, ni d'être baptisé, ni d'avoir professé sa foi. Tout le monde est accueilli, parce que nous ne sommes pas une église confessante qui serait la secte de ceux qui ont professé leur foi et qui ont une foi remarquable. Mais on est une église de multitude, ouverte à tous. Et quiconque veut venir et dire « Moi, je me mets à l'écoute d'une parole de pardon et de grâce, quiconque dit « Je veux bien écouter » est bienvenu. » Donc on ne demande rien. Mais... c'est à chacun de voir. En tout cas, ce convertissez-vous ne doit pas être compris comme l'idée de changer de religion, une fois de plus, hein, mais pas forcément, mais comme une démarche permanente de soi-même, de toujours se convertir et de sans cesse revenir à Dieu duquel on s'éloigne et qui nous accueille, même si on n'est pas inscrit dans un registre de baptême. Je crois que Dieu, je ne sais pas si Dieu consulte nos registres de baptême pour savoir si on a été baptisé enfant à telle date, tel jour, telle heure. Dieu s'en fiche. Simplement, il accueille ceux qui reviennent vers lui. Et cet appel de Jean-Baptiste, convertissez-vous, donc revenez à Dieu, dit l'essentiel. Parce que je dirais que, quelle que soit votre religion, j'entends cet appel comme celui de dire « revenez à Dieu » et à Dieu seul. Et ayez le courage, j'allais dire, de faire un peu le ménage dans votre foi. Parce que notre foi ressemble parfois à une vieille maison de famille qui finit par être encombrée de tas de bazar, de machins hérités de trucs de la grand-mère, de trucs qui ne ressemblent plus à rien. Et à un moment donné, il dit, écoutez, faites un peu le ménage et revenez à Dieu seul. Débarrassez-vous du superflu. Débarrassez-vous même de vos croyances enfantines et débarrassez-vous même ou mettez relativiser les rites, les pratiques diverses et même les doctrines qu'on se force à croire. Débarrassez-vous de tout ça et ayez le courage de revenir à Dieu seul et de pouvoir dire « Voilà, ma foi, c'est ce que je crois face à Dieu. » Et vous ne pouvez pas savoir, en tout cas pour moi, mais je ne parle que de moi, vous parlerez de vous quand vous voudrez, moi, il y a des tas de choses dans le catéchisme qu'on m'a enseigné enfant, que je ne crois pas. Longtemps, ça me dit, oui, moi, je ne suis pas un bon croyant, je devrais croire si, mais je n'arrive pas. Le bonheur que j'ai éprouvé le jour où j'ai dit, eh bien, je ne crois pas à ça, et je vous emmerde. Je crois ce que je crois, et je suis tellement heureux de pouvoir croire librement ce que je crois, que c'est un bonheur, mais essayez si vous voulez, c'est merveilleux de se donner le droit de croire ce qu'on a envie de croire, ce que l'on sent et ce que l'on croit, sans vouloir sans arrêt essayer de se forcer à mettre un manteau qui n'est pas à sa taille et qui n'est pas le sien. Je croise trop de gens qui se rendent malheureux dans leur foi parce qu'ils sont persuadés qu'ils sont de mauvais croyants, alors que dans le fond, bah, ils croient comme ils croient, et après tout, c'est peut-être ça l'essentiel. En tout cas, c'est source d'un bonheur extraordinaire. Donc effectivement, il faut revenir à Dieu lui-même. Et si vous n'êtes pas très croyant, ou pas croyant du tout d'ailleurs, on peut entendre cet appel de Jean-Baptiste. Alors, je fais un petit travail de transposition. Dieu, pour quelqu'un qui n'est pas habitué à nos églises, je dirais, c'est ce que les théologiens appellent l'ultime, l'essentiel, le fondamental, le centre, le cœur vital de ce que je crois le plus essentiel de ma vie. Et l'appel de Jean-Baptiste, « Revenez à Dieu », peut être entendu même pour un non-croyant en disant « Dans votre vie, essayez de faire le tri entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Et recentrez-vous sur ce qui est pour vous fondamental, essentiel et ultime. Et débarrassez-vous de tout le reste. Essayez de vous recentrer une fois pour toutes sur ce qui est le sens profond de votre vie et qui fait en sorte que vous êtes vous et que vous êtes centré sur une conviction qui donne sens à votre vie. » Et donc revenir à l'essentiel est peut-être une chose fondamentale et importante qu'il faut arriver à faire. Et dans la religion, si on en a une, donc c'est de purifier sa foi, de revenir à la religion la plus pure qui soit. Et la religion la plus pure qui soit, c'est pour moi simplement Dieu et le Dieu de Jésus-Christ, qui est un Dieu d'amour et de pardon. Si vous avez ça, vous avez tout. Tout le reste, ça peut, bon, c'est de l'accessoire. Et donc oui, mes amis, écoutons avec sérieux cet appel de Jean-Baptiste. Convertissez-vous. Convertissez-vous à la religion, je ne dis même pas à la religion chrétienne, mais je dirais à la religion du Christ et de la prédication de l'Évangile, qui est la plus douce, qui est la meilleure qui soit, tant pour vous que pour les autres. Parce que celui qui croit dans un Dieu de paix et de pardon ne peut que progresser dans un chemin de paix et de pardon et être dans ce monde un ouvrier de paix et de pardon. Ce sera déjà pas mal. Et donc revenez à Dieu lui-même. Ayez une foi centrée sur Dieu, sur la présence de Dieu, sur l'amour de Dieu, et laissez de côté le reste. La vraie religion, c'est celle du cœur. Le centre de la religion n'y tient qu'à une chose, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer son prochain comme soi-même. Ça, c'est ce que dit Jésus. Voilà, deux commandements, tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce que dit Jésus et il a raison. Et donc la religion la plus pure, c'est celle dans laquelle il n'y aurait rien d'autre que Dieu et le prochain. Donc voilà, le cœur de tout, c'est Dieu, moi et le prochain. Et tout ça dans l'accueil, dans l'amour, dans la bonté, la douceur, la générosité, le service et la grâce. Amen.